Merci. Ces problématiques sont suffisamment nouvelles pour moi pour que je reste le plus proche possible de mon texte, ce qui me permettra aussi de ne pas déborder longtemps. Et ce qui est d'autant plus nécessaire que je vais commencer directement par un cas très concret et relativement long, un récit ethnographique que j'ai envoyé de l'été dernier. Il y a quelques années, lorsque je revenais à Lamap, village sur l'île de Malakoula, dans l'archipel Vanuatu, anciennement Nouvelle-Hébride, après quelques années passées à Port Vila, la capitale, Arthur fut l'objet de tentatives d'empoisonnement. Deux vieux étaient les suspects principaux. Deux vieux, cousins parallèles d'un autre homme important de Lamap, qui avait lui-même quitté le village pendant quelques années pour être ministre de l'Éducation, avant de revenir et de sombrer dans la misère. Deux vieux, dit Arthur, que mon clan avait pourtant nourri et habillé lorsque toute leur famille s'était laissée aller. Ils étaient des gens de confiance. Premier acte. Les deux vieux avaient invité Arthur à boire, récolté de leur jardin et pressé par leurs soins, le cava. Cette boisson faite à partir des racines du poivrier sauvage dont les effets sont relaxants et euphorisants. Boire le cava à la tombée du jour, le plus souvent en petits groupes, généralement d'hommes, est à Lamap, comme ailleurs au Vanuatu, le rituel le mieux partagé et pratiqué. Mais Arthur sent le piège. Il hésite. Il doute et ne les rejoint finalement pas. Son doute, dit-il, sera confirmé le lendemain, lorsque les deux vieux lui reprochent de n'être pas venu, et surtout lui reprochent d'avoir été obligé de renverser le cava. C'est étrange, pensa Arthur. Personne ne renverse le cava. Deuxième acte. Arthur et sa famille cultivent plusieurs jardins. Le premier est situé sur les collines à 1h30 de marche du village qui, lui, se trouve au bord de mer, en bord de mer. Ils y cultivent des bananes, des tomates, des choucanas, des taros, du manioc. Le second jardin, celui dans lequel ils cultivent le cava, loin du regard d'éventuels voleurs, est caché derrière les collines de l'autre côté de la baie, à 2 heures de pirogue et 3 heures de marche. Le troisième et dernier, aussi le plus distant, est situé de l'autre côté de la presqu'île. Trop loin pour y aller et revenir au village le même jour. Ils y cultivent des légumes et fruits qui ne nécessitent qu'une attention irrégulière. Cacao, igname, taro, etc. C'est au beau milieu de ce troisième jardin qu'Arthur découvre un jour une plante qu'il n'avait jamais introduite. C'était un signe, dit-il. Quelqu'un avait enterré du poison dans mon jardin et avait planté le végétal par-dessus afin de cacher toute trace. Inquiet, pour ne pas dire affolé, il rentre chez lui sans d'abord savoir que faire, pour repartir aussitôt, ayant pris la décision de détruire le jardin que la famille ne visite d'ailleurs plus. C'est en remontant les collines en direction de l'autre côté de la presqu'île qu'il ressent une étrange présence. Il s'arrête et se retourne et aperçoit l'un des deux vieux qu'il avait attendu, caché, et qui lui dit alors la phrase étrange suivante. « Les jours sont longs, mais la vie est courte. » Troisième acte. Un jour, les deux vieux, toujours les mêmes, préparent un poison à base de plantes toxiques qui lui était destiné, dit Arthur. Mais l'un des deux oublie de se laver les mains. Le soir, en buvant le fameux cava, ce vieux trempe son doigt dans la boisson, s'empoisonne lui-même et finit par mourir. Renversement de situation, les habitants de Lamap accusent Arthur. De nombreuses réunions publiques ont lieu, lors desquelles Arthur tente de se déculpabiliser, de s'expliquer. Mais rien n'y fait, la situation devient intenable. Il ne semble rester à Arthur qu'une solution, celle de quitter à nouveau Lamap avec femme et enfant. C'est alors qu'il décide de faire venir le père Sako, un mariste américain réputé et redouté pour ses pouvoirs qui vit sur l'île de Tala. Ses services sont payants, mais quand Sako est là, dit Arthur, lorsqu'il prêche et que tu as des poisons sur toi, tu meurs instantanément. Sako organise une cérémonie publique lors de laquelle Arthur jure sur la Bible ne pas posséder de poison et ne pas avoir empoisonné les vieux. D'être innocent. La cérémonie est répétée dans l'église de la mission, le dimanche matin, pendant la messe. C'est alors que les habitants de Lamap ont commencé à ressentir la peur des conséquences du pouvoir de Sako, dit-il, et que par dizaines, l'un après l'autre, ils se sont rapprochés de l'autel pour y déposer des feuilles ou des tissus noués contenant des poisons. Dernier acte. Avant de partir, le père Sako dit à Arthur, dans un an exactement, jour pour jour, il y aura une rechute, et vous allez voir et comprendre qui est le véritable coupable. Un an plus tard, exactement, jour pour jour, raconte Arthur, l'autre vieux, celui qui avait survécu, m'offre une pomme empoisonnée. Mais Arthur refuse, et par une mauvaise manipulation, ce vieux décède également. Comme il est coutume, le lendemain, le corps est enroulé dans une natte et enterré. Or, il tombe des trompes d'eau, et la tombe se remplit et libère le corps qui flotte à sa surface. À plusieurs reprises, la famille du défunt ajoute du ballast pour le faire couler. Mais le corps remonte et remonte jusqu'à ce qu'enfin, il puisse être noyé sous un poids écrasant dans la boue. C'était là le signe de la punition, dit Arthur, et il fut lavé de tout soupçon. Avant de partir au Vanuatu, où j'ai recueilli ce récit sur lequel je reviendrai, j'ai travaillé pendant 17 ans en Australie, dans une région appelée le désert de l'Ouest. Ces gens sont ce que les Australiens appellent des « traditional oriented », c'est-à-dire qu'il s'agit de groupes qui sont entrés très tardivement en contact avec l'Occident, pour certains seulement dans les années 1950 et 1980, qui sont restés, tout en sachant que le blanc était arrivé, relativement à l'écart des machines administratives, missionnaires et coloniales. Il s'agit de gens qui ne parlent actuellement pas ou très peu l'anglais, et qui, même si sédentarisés de force degré aujourd'hui, n'ont rien à voir avec ces aborigènes périurbains dont les objectifs politiques s'articulent dans un langage culturaliste. Pendant toutes ces années, je n'ai entendu pas plus de 10 fois des termes ou vu des actes que l'on peut associer à la sorcellerie. Nankale est là-bas le nom de celui qui a le droit d'user le pouvoir hors du commun et hors contexte rituel. Mais des Nankale, j'en ai connu 3 seulement, 2 frères et le fils adoptif de l'un d'entre eux. Le Nankale est à la fois un sorcier, un chaman et un guérisseur, un pointeur d'os, comme on le connaît, et un désenrouteur en ce qu'il sait extraire d'une victime par succion un os pointé par un autre Nankale. Il sait transformer son esprit en corps, habituellement celui d'un oiseau, et chercher au loin les êtres humains, les ancêtres et les phénomènes naturels. Elkin, en s'inspirant de l'anthropologie nord-américaine, les appelait des medicine men, ou encore men of high degree. Des hommes qui, dans une société considérée égalitaire, entre guillemets, seraient un peu moins égaux, des hommes de la différence. Certes, autrefois, disent les vieux, on ne mourait que pour 3 raisons. Le meurtre, le Nankale qui avait pointé l'os, ou la famine. Et ces dernières étaient toujours la conséquence d'une erreur ou négligence des hommes lors des rituels de multiplication des espèces naturelles. En résumé, la mort était une conséquence humaine. Certes, aujourd'hui encore, et comme le disait déjà Evans Pritchard expliquant la sorcellerie chez les Azandés, il faut une portée pragmatique qui permette d'identifier un responsable. Et donc, aujourd'hui encore, comme j'en ai vu des cas, la mort des jeunes, 2 jeunes alcoolisés roulant brousse la nuit et dont la voiture se renverse est expliquée par quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un avait forcément fait quelque chose de pas normal. Il était clairement possible d'identifier dans ces représentations la nécessité d'expliquer des phénomènes qui perturbent l'ordre social, les manières naturelles des choses en recherchant la cause intentionnelle, et donc le tricheur, le perturbateur, celui qui dérange cette normalité. Donc certes, j'avais collecté quelques récits, j'avais observé les accusations, mais je n'avais jamais observé les conséquences des prises de décision dramatiques ou qui me semblaient suffisamment structurantes. Et je n'ai jamais observé de chasse aux sorcières. Les actions qui devaient remettre de l'ordre suite aux perturbations se limitaient au désenroutement, à la guérison d'individus. Les gens n'en parlent pas, ou peu. En tout cas, tout ça était bien suffisant pour que je m'y intéresse de manière plus systématique. Non pas par manque d'intérêt, en fait, mais parce que mes problématiques par ailleurs étaient déjà suffisamment lourdes pour ne pas trop vouloir me disperser. Je note quand même, entre parenthèses, que les travaux sérieux sur la sorcellerie en Australie se comptent sur les doigts d'une main. Manque d'intérêt ou manque de matériaux, je n'ai pas la réponse. En arrivant au Vanuatu, la sorcellerie, tout particulièrement l'empoisonnement, qu'il soit matériel ou immatériel, prirent une toute autre allure. Mon sujet d'étude ne s'y prêtait pas, pourtant. A priori, il s'agissait d'étudier les conséquences sur les structures et organisations villageoises qu'avaient les ventes de terre à des étrangers dans ce paradis fiscal. Une problématique et une approche donc plutôt matérialiste et a priori encore déconnectée des questions de sorcellerie. Très vite, je me suis rendu à l'évidence. Au Vanuatu, il est possible de citer sans détour l'expression qu'utilisait Maurice Bloch au sujet des affimanieries de Madagascar, lorsqu'il montrait, entre autres, qu'il y avait une relation directe entre conception de l'unité domestique, partage de la nourriture, l'acte de manger, et empoisonnement, je le cite. Les Afimanieri sont tout autant obsédés par le thème de l'empoisonnement que par celui de l'unité domestique. En réalité, pour eux, ce sont les deux facettes du même problème. Afin de mieux pouvoir saisir cette relation qui se dégageait très vite entre foncier, unité domestique et empoisonnement, il nous faut faire quelques détours par le foncier lui-même, et donc expliciter quelle était la nature du projet de recherche de Vanuatu. Car il n'est probablement pas fortuit que c'est dans ce contexte que la notion de poison fit rapidement son apparition. Je fais noter en un mot que la notion de poison nakaimas, comme on le dit au Vanuatu, en vislama, le pidgin local, recouvre davantage que la seule substance toxique, bien sûr. Il désigne à la fois et de manière métonymique l'ensemble des actes, processus et intentions maléfiques, ainsi que les substances particulières qui sont mises en œuvre. Le mot peut aussi identifier les restes humains, y compris les excréments, qui jouent parfois un rôle dans ces actes. C'est dans ce sens que j'utiliserai la notion de poison. Question foncière, un peu de contexte. Anciennement appelé les Nouvelles Hébrides de Vanuatu, composé de plus de 80 îles dont 65 habitées, et à 1750 km à l'est du nord de l'Australie, fut un condominium franco-australien, et c'est important. Franco-britannique, pardon, lapsus significatif, de 1907 à 1980. Pour aller vite, la situation du condominium crée une nouvelle forme de division et de nouvelles solidarités entre des communautés, régions et îles anglophones à majorité anglicane d'une part, et les communautés, régions et îles francophones à majorité catholique d'autre part. D'emblée pourtant, ceux qui expriment un intérêt particulier dans les Nouvelles Hébrides ne furent ni les Britanniques, ni les Français, mais les Australiens. Ainsi, Georges Bourges, commandant aux messageries maritimes françaises, avait très tôt saisi l'intérêt australien et écrivait en 1906 que, mal renseignés, les ministres de Napoléon III commirent en 1864 la faute capitale de ne pas étendre, dès cette époque, la prise de possession aux îles Loyalty et à tout le groupe immédiat des Nouvelles-Hébrides. L'intrusion des missionnaires anglicans et les entreprises de capitaines marins suffirait à l'Angleterre pour appuyer des revendications de souveraineté. Les polémistes australiens sont partis de là, les premiers pour démontrer le bien fondé de l'annexion de tout l'archipel par le gouvernement. Fin de citation. Ou encore, autre citation rapide, la vie est beaucoup plus pénible pour le blanc en Nouvelle-Guinée dans les îles Salomon, situées au 10e de l'équateur. C'est peut-être pour cela que l'archipel de Nouvelle-Hébride est appelé par les Australiens la perle du Pacifique. Et j'en passe. Mais il est également utile de lire l'intérêt, et je reviens sur l'empoisonnement parce qu'il y a des liens directs, hein, donc il faut bien comprendre ce contexte aussi. Mais il est également utile de lire l'intérêt australien dans cet archipel et l'autre dans la région, telles les îles Salomon et Fidji, au regard de la situation et des stratégies géopolitiques de la jeune nation australienne. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Australiens affichent clairement leur crainte face aux géants asiatiques et tentent par plusieurs reprises de s'assurer du soutien des Alliés. Dans un premier temps, ils autorisent ainsi les Britanniques à effectuer des tests atomiques sur leur territoire en espérant devenir eux également une puissance nucléaire. Dans un second temps, ils se tournent vers les États-Unis en espérant que l'OTAN puisse être étendue au Pacifique et à ce qu'ils en deviennent un membre. J'ai décrit ces stratégies politiques et leurs conséquences sur les populations indigènes ailleurs et je ne reviens pas. Notons simplement que l'Australie annonce à plusieurs reprises au cours des différents stades de sa construction nationale l'intention de contrôler le Pacifique et en particulier celui qui facilite la voie à une éventuelle aide militaire américaine en cas de conflit avec les géants asiatiques et en particulier la Chine. Elle a ainsi directement et indirectement participé aux conflits qui ont eu lieu au moment du passage à l'indépendance du Vanuatu en 1980, lorsque des communautés mélanésiennes francophones, préférant le concept d'autonomie, se soulevaient contre l'indépendance naissante. Participation australienne directe par le biais de leurs forces aériennes qui transportaient des Mélanésiens francophones vers les centres d'incarcération, indirecte en menaçant l'armée néo-guinéenne de voir leurs vivres coupés dans le conflit qui les opposait à l'Indonésie s'ils n'envoyaient pas des troupes sur le sol vanuatais afin de s'assurer du bon déroulement de la prise d'indépendance et donc du départ des troupes françaises. Walter Lini, leader de l'indépendance du Vanuatu, était lourdement soutenu par l'Australie. Tout ceci pour dire que l'intérêt australien dans le Vanuatu n'est pas récent et qu'il perdure aujourd'hui sous différentes formes et par différents moyens qui sont en relation étroite avec ma problématique. Au jour d'aujourd'hui, annoncer que 80% du littoral de l'île d'Efate L'île sur laquelle siège la capitale du Vanuatu est propriété australienne, est une estimation minimaliste. Un peu plus de 3 heures de vol de Sydney, 1h30 de moins que le vol intérieur Sydney-Perth, paradis fiscal, plage tropicale et récifs de corail baignés dans un exotisme fruité et fleuri, Port Vila et son île effacée attirent en effet l'attention de nombreux investisseurs australiens qui acquièrent des résidences secondaires et qui construisent des complexes touristiques. J'ai donc décidé d'étudier les conséquences de ces ventes foncières que consentent les villageois mélanésiens aux visiteurs australiens en me situant dans 3 contextes différents. Le premier serait celui dans lequel les ventes avaient déjà eu lieu et où j'envisageais d'analyser les conséquences d'une restructuration spatiale et de l'accès à des fonds monétaires considérables par les villageois. J'ai trouvé un tel cas avec l'exemple du village d'Etob sur l'île des Palais. J'y reviens. Ma seconde situation serait celle d'un cas dans lequel les négociations entre investisseurs et mélanésiens seraient en cours. Je ne reviens pas sur cette situation qui s'est avérée difficile d'accès et donc peu éclairante. La troisième situation serait une île plus isolée, sur laquelle les acquisitions seraient encore rares, voire inexistantes. Le village de Labat, sur l'île de Malakoula, me fut conseillé. Mon premier séjour est donc lieu à Eton, sur Efate. Eton est un village à 45 minutes en voiture de la capitale. Les habitants d'Eton ont vendu la quasi-totalité de leur propriété foncière littorale à un investisseur australien en vue de la construction d'un complexe hôtelier. Le village est composé de 2 groupes d'anciens villages, qui chacun constituait probablement une tribu avant l'arrivée des missionnaires. Ces deux groupes sont appelés la Grande Famille ou Boblin et la Petite Famille ou Takes. La Grande Famille compte à peu près le double de membres de la Petite, qui sont au nombre de 100 environ. Mais les membres de la Grande Famille sont originaires des villages de la Brousse, descendus sur la côte avec l'arrivée des missionnaires, alors que la Petite Famille est plus ancienne sur les lieux, et donc se considère davantage être coutumière. Le chef représentant le village auprès des autorités est un membre de la petite famille. Son adjoint, comme l'appellent les habitants, est un membre de la grande famille. Les ventes des terres ont donné lieu à des discussions intenses, à des conflits. La grande famille exigeant une répartition des revenus de la vente qui soit proportionnelle au nombre de membres de chaque famille. La petite famille, quant à elle, exige à ce que les revenus soient divisés par 2, moitié pour chaque famille. À ce jour, les fonds sont toujours bloqués. Les questions, les accusations d'empoisonnement foisonnent depuis. Le nombre de nakamal ou karabar explose, car les uns et les autres se méfient de consommer le liquide chez les uns et les autres. Offrir du kava dans une coupe de noix de coco coupée en 2 est en effet la méthode la plus facile pour empoisonner une personne. Il suffit de placer un peu de poison sous l'angle du pouce et de le tremper dans le liquide en servant le bol. La méfiance est généralisée. L'empoisonnement est au cœur des discussions quotidiennes, jamais explicitement évoquées, mais toujours et partout sous-entendues. Une véritable obsession, comme le disait Maurice Bloch. Mais aussi, le poison frappe là où se situe l'unité domestique, la valeur de la solidarité familiale et relationnelle, exprimée par le partage de nourriture et la fabrication de consubstantialité. Le poison, m'explique-t-on, arrive toujours par, je cite, « les chemins les moins attendus », et donc par les fauches, par le biais de, je cite encore, ceux avec lesquels tu partages ta nourriture, par ceux à qui tu fais confiance et qui connaissent tes habitudes. C'est ton meilleur ami, ton cousin, ton neveu qui se sont laissés convaincre de passer à l'acte. Ils viennent pour partager un fruit avec toi qu'ils découpent au couteau dont un côté de la lame a été badigeonné de poison. Le poison frappe aussi là où tu es le plus vulnérable, d'abord tes enfants ou tes parents. Il t'a fait bien ainsi. Et c'est après seulement qu'il te touche directement. Notons déjà ce qui me paraît important et central, sur ce sur quoi je vais revenir. Le responsable, le coupable de l'acte de l'empoisonnement, celui que l'on soupçonnera, n'est pas un fils, une fille, une mère ou un père. Il n'est pas non plus un étranger ou un ennemi. Les catégories évoquées sont celles qui se situent à la périphérie de l'unité domestique, à la limite entre le nous et l'autre, le neveu, le cousin, l'ami. Ils sont proches, mais une incertitude. Une certaine incertitude subsiste quant à leur solidarité. Ce sont aussi des gens qui, tout à fait légitimement, peuvent subir des influences de la part des ennemis, d'autres familles, desquelles ils sont peut-être tout autant cousins, amis et neveux. L'empoisonneur se situe à la limite de la confiance, entre guillemets, naturelle. Je veux dire celle exigée par la conception même de ce qu'est une solidarité familiale à Eton. Ils sont étrangers et intimes en même temps. Apprenant que j'allais, après Eton, me rendre à la mort, sur l'île de Malakoula, une forte inquiétude se réveilla chez les personnes avec lesquelles j'étais devenu le plus intime. Pour résumer, on m'expliqua longuement qu'à Malakoula, et tout particulièrement le village de Lama, qu'il était redouté pour ses empoisonneurs et que, véritable aveu, travaillant sur des questions foncières, je courais un risque de ne jamais redoutre. Il décida alors de me faire subir un rituel de protection contre les poisons, lors duquel il a fallu mâcher et avaler des feuilles d'une tente particulière et particulièrement amère, m'annonçant que si je ne sentais pas l'amertume, c'est qu'il était déjà trop tard. Il m'a fallu ensuite inhaler les fumées d'une autre feuille brûlée sur une pierre chauffée aux braises et qui savait convier les substances protectrices nécessaires. Désormais, pendant 5 ans, militant, le bol de cave à empoisonner qui me serait tendu se renverserait avant que je puisse l'agiter. Et la lame de couteau se briserait à la découpe. Celui qui essaierait de m'empoisonner deviendrait sa propre victime. Jusqu'à ce stade, l'obsession généralisée au sujet de l'empoisonnement peut être au moins partiellement corrélée, sinon expliquée, par les conflits fonciers. Il est difficile de savoir si cette obsession est récente ou si elle préexistait avant l'arrivée des missionnaires. Il est également difficile de savoir si les conflits fonciers avaient l'envergure qu'ils ont aujourd'hui. À Eton, les habitants soulignent une certaine historicité de ces conflits par le biais de récits selon lesquels des guerriers des îles voisines, en particulier de la petite île de Tangoa, venaient fréquemment à Efate avec comme objectif celui de conquérir de nouvelles terres. Il raconte également qu'autrefois, les chefs étaient nourris par une seule et vieille femme qui préparait la nourriture et qui la goûtait avant de la servir. Il semble néanmoins que les pratiques d'empoisonnement, tout comme les guerres territoriales, aient considérablement diminué avec l'arrivée des missionnaires et qu'elles prirent l'ampleur qu'elles connaissent aujourd'hui à la suite de l'indépendance. Cette première hypothèse peut être nourrie par une autre. William Rodman observe à Rambae, une autre île du Vanuatu, comment un chef coutumier, reconnu médiateur des nombreuses circonstances, se fait accuser d'empoisonnement par une personne relativement proche de son cercle de parentèle, un grand-père classificateur. S'inspirant de l'ethnographie africaine, en particulier la camerounaise, au travers des travaux de Geshir, il se pose les deux questions suivantes. Comment se fait-il que les accusations de sorcellerie connaissent un accroissement considérable dans les environnements ruraux des États postcoloniaux? Et qu'est-ce qui peut expliquer que les victimes de ces accusations sont des leaders politiques bien établis? Il suggère ainsi que la sorcellerie est un moyen discursif dans le domaine de la politique locale dans des États postcoloniaux faibles. Les accusations de sorcellerie auraient un effet de nivellement et seraient l'expression de protestation de la part des femmes, des jeunes et des impuissants à l'encontre des anciennes formes de pouvoir et d'inégalité. En particulier, suggère-t-il, dans les années qui ont suivi l'indépendance, ces accusations étaient dirigées à l'encontre de chefs coutumiers qui, au nom de la tradition qu'ils incarnent, accédaient à des rôles de leaders politiques et devenaient ainsi des élites centralisant les deux formes de pouvoir, la caste homme, ou tradition avec son système à grade, et le système politique post-indépendance d'un nouvel État. Il est indéniable, et je passe maintenant au cas de la map sur l'île de Malakoula, qu'il existe des liens entre empoisonnement et peut-être plus généralement sorcellerie, je n'en sais rien, et les luttes autour du pouvoir local, même si je ne suis pas persuadé que c'est là que résident les seules raisons de l'empoisonnement et de son accroissement, tant est qu'il a vraiment eu lieu. Mais c'est une première piste que je vais développer rapidement avant de revenir sur notre exemple initial, celui d'Arthur. Ce qui est appelé le village de Lama est en réalité constitué d'un ensemble de hameaux qui s'étendent le long de la côte sur environ 15 km. La majeure partie de ces hameaux est construite autour d'un ou plusieurs nasaras, qui est un espace rituel comprenant la maison des initiés, le batou, les tambours du lignage et les pierres sacrées semi-enterrées qui représentent les ancêtres. Ces hameaux sont dominés par une forte idéologie patrilinéaire. Les hommes sont des frères descendants d'un même ancêtre, ils se partagent sous l'autorité d'un aîné, le chef du lignage, les terres et décident de l'emplacement des cases et des jardins de chacune des familles constituant le hameau. La terre est en principe indivisible, revient dans sa totalité aux générations suivantes qui coopéreront et partageront à l'image de leurs ancêtres. Si chaque famille est ainsi usufructuaire des parcelles qui lui ont été allouées, elle ne peut néanmoins en disposer sans rendre compte et obtenir l'autorisation des hommes âgés et en particulier du chef du lignage. Les lignages, comme Léon sont en forte compétition foncière pour diverses raisons matérielles et immatérielles. Au contraire de la terre, il faut le voir en relation, les cochons sont la propriété individuelle des familles, même s'ils se nourrissent sur les terres communes. Ces cochons ont une importance significative, hormis l'alimentation de la famille, dans deux contextes. Le premier est les échanges matrimoniaux. Les lignages sont exogames, et malgré leur compétition et dans certains cas leur conflit, j'y reviens, ils sont tous liés entre eux par des rapports d'affinité. En effet, le mariage idéal étant oblique avec la famille de la fille, la sœur du père, des échanges entre au moins trois lignages sont nécessaires afin de clore la boucle matrimoniale. Le mariage est toujours accompagné de dons monétaires et d'échanges de cochons qui doivent être préparés longtemps à l'avance et qui lient les familles et lignages par la dette. Le second domaine dans lequel le cochon possède une importance centrale concerne la graduation des chefs. Hormis les chefs de lignage, qui aujourd'hui siègent également dans le conseil de la Lama, il existe un autre type de chef, les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers ne sont pas systématiquement des chefs de lignage, mais sont des hommes qui ont réussi à accumuler suffisamment de cochons, et de cochons à dents recourbées en particulier, pour pouvoir organiser un rite de graduation, un imanki. Ces hommes passent ainsi par plusieurs grades, le plus évolué étant le namal, acquérant à chaque fois davantage de prestige. Par le prix à payer et le nombre de cochons à tuer, avoir la capacité d'organiser un rituel de graduation témoigne d'un réseau de soutien et d'influence considérable. Un lignage qui dispose d'un ou plusieurs chefs gradés, en plus du chef de lignage, est sans aucun doute considéré puissant et convie un degré de peur et de respect, mais aussi de jalousie de la part des autres lignages. L'accumulation de cochons par un homme et par son frère de mère, qui doit contribuer de manière substantielle à la graduation de son neveu, est la condition d'accès aux privilèges et au pouvoir. À la Lama, aucun homme n'occupe aujourd'hui le grade suprême, celui de Namal, même si plusieurs candidats montent les échelons et préparent cette graduation ultime. Mais les souvenirs au sujet du dernier Namal sont vivaces. Mieux connu sous le nom de Namal de Bangrere, il était un chef du hameau de Pnoaï et vivait dans les années 1910-1920. Les gens de la Lama l'avaient accueilli chez eux après qu'il ait fui les siens de l'autre côté de la baie, pour des raisons qui ne sont jamais très claires. Malgré le fait qu'il ne soit donc pas un local, il se fait rapidement un nom, accède aux terres en tant qu'usufruitier, produit des porcs et accède l'un après l'autre aux différents grades. On le craignait pour son influence et son prestige, pour sa capacité à communiquer avec les esprits, ses pouvoirs de sorcier, sa manipulation des poisons. Fréquemment, il exigeait des autres lignages, disent les habitants de Lama, des enfants qu'il consommait. Le Namal de Bangrere était le dernier des cannibales du sud de Malakula, disent les gens de Lama. Par peur de ses pouvoirs, personne n'osait lui refuser ses désirs. Seuls les missionnaires qui voyant en lui un danger à leur travail de conversion, puisqu'il refusait avec obstination de se soumettre à la croyance chrétienne, seuls les missionnaires tentèrent de lui faire face et exigeaient des habitants qu'ils arrêtent de lui soumettre des enfants pour ses sacrifices. Mais le Nama de Bangrere maintient ses activités cannibalistes jusqu'à ce que les missionnaires demandent aux Français, à la résidence de France à Port-Vila, d'organiser une expédition punitive. Les Français débarquent alors, bombardent la maison du Namal, qui était une maison suffisamment étrange pour qu'on la cite, parce qu'elle était en pierre et non pas en végétaux, similaire à la maison des missionnaires. Donc les Français bombardent cette maison et le Namal est enseveli par-dessous. Ironie du sort, les pierres de sa maison furent ensuite utilisées dans la construction de la maison du délégué français qui allait s'installer à la main par la suite. Ce récit est confirmé par les mémoires non publiées que j'ai retrouvées d'une certaine Lucienne Bourgeot, épouse d'un délégué français qui écrivait que les Kanaks, comme elle les appelle, eurent si peur des punitions de l'esprit du Namal que, je cite, qu'ils retournèrent au paganisme pendant 15 ans. Nous avons vu que selon l'hypothèse de Rodman, les chefs coutumiers seraient susceptibles d'être accusés de sorcellerie et d'empoisonnement, car ils cumulent les pouvoirs laïcs et sacrés en même temps. Certes, le Namal de Bangrere vivait bien avant l'époque de l'indépendance. Mais probablement s'était-il avancé comme interlocuteur de taille devant les missionnaires, et ceci à une époque où la confusion entre francophonie et anglophonie, entre catholicisme et anglicisme, et entre une bureaucratie française et une bureaucratie anglaise, faisait que le condominium fut un état confus et indécis, un état faible à l'image de certains états post-coloniaux. Mais osons ici une seconde hypothèse, celle de dire que la relation entre empoisonnement et cannibalisme n'est pas fortuite. Pouvoir, cannibalisme et poison, au sens mélanésien du terme, seraient alors conjugués pour constituer différentes facettes d'un même complexe. Je reproposerai cette hypothèse en conclusion. Hypothèse qui n'est bien sûr pas nouvelle et que vous retrouverez sous une autre forme cet après-midi dans l'exposé de Lemoynier également. J'avais annoncé que j'allais revenir sur la compétition des lignages et l'importance. Pour la comprendre et pour mieux situer le récit d'Arthur dans le contexte politique local, il faut faire un petit détour par l'histoire tribale de la main. À quelques détails près, les interlocuteurs, quel que soit leur camp, s'accordent sur les grandes lignes de l'histoire suivante. La presqu'île de Lamap fut habitée jadis par trois groupes, tribus ou lignages, peu importe, nommés les Kloang, les Bangul et l'Imbru, qui parlaient la même langue, le Metel. Chacun de ces groupes occupait un bandeau de terre parallèle à celui du voisin qui allait d'un côté de la presqu'île à l'autre, et chaque groupe possédait ainsi à la fois des terres côtières et des terres intérieures. Les collines, donc les terres intérieures, les collines où se situent les jardins. Trois groupes donc, qui nous rappellent aussi la nécessité induite par le mariage oblique, celle de mettre au moins trois groupes en relation pour clore l'échange matrimonial. Ces trois groupes semblaient vivre l'un à côté de l'autre sans trop de conflits guerriers. Le danger venait plutôt du nord, des groupes qui vivent au-delà de la presqu'île et tout particulièrement des tribus de la langue niçoise. Un jour, c'est pourtant une tribu de la langue Haol, descendue du nord à l'intérieur de l'île, de Malakula, chassés de lieu en lieu, qui s'installent sur la presqu'île et sur le territoire des Tnoam. Ils y construisent un village, mais les Tnoam les chassent. Ils se déplacent plus loin et en rétablissent un autre, mais les Tnoam les chassent à nouveau. C'est ainsi qu'ils traversent toute la presqu'île, de nouveaux villages en nouveaux villages, et arrivent chez les Imbru, qui, alors qu'ils sont des alliés et des parents des Tnoam, les accueillent et où leurs langues vont rapidement se mélanger. Les Imbru et les Hao s'unissent dans une guerre sanglante contre les Tnoam. Un jour, les Haor attendaient cachés près des jardins où les femmes et les enfants des Tnoam se rendaient pour travailler. Tous furent tués par des flèches empoisonnées, à l'exception d'un garçon qui réussit à s'enfuir et qui rentre raconter l'histoire. Une autre fois, les Haor décident d'organiser un Imanki, un rite de graduation à Ambrim, une île phare en face de Malakula. Mais les hommes d'Ambrim sabotent leur pirogue qui se brise en deux en pleine mer. Les Haog doivent alors nager pour rejoindre Malakula. Les Tnoam pensent d'abord vouloir dériver des noix de coco, mais au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, ils reconnaissent les têtes des Haog, partent les attendre en pirogue et les abattent en leur brisant les crânes à coups de cassette. La guerre continue ainsi et les uns déciment les autres jusqu'à ce qu'un missionnaire pacificateur s'installe sur la presqu'île. La guerre cessa et les Haog établirent un village qui est aujourd'hui le plus grand village de Lama, avec plusieurs centaines d'habitants, et comprenant plusieurs hameaux patrilinaires. Dans la langue locale, le nom de ce village, Travail, signifie « les gens qui cherchent la terre ». L'arrivée des Haog ne fut que le premier feuilleton d'une série d'immigrations. Avec les missionnaires, d'autres groupes descendirent du nord pour s'installer sur la presqu'île, emportant avec eux leur Nassara, leur maison des hommes. Peu importe si ces récits sont historiquement véridiques, ce qui est important de comprendre est que la Lamap compte aujourd'hui une vingtaine de ces maisons, qui certes s'intermarient, mais qui néanmoins se distinguent globalement au niveau du discours en deux groupes. Ceux qui peuvent justifier être des Manlama, c'est-à-dire les originaires de la presqu'île, et ceux qui sont qualifiés des Mankom, les hommes qui sont venus d'ailleurs. L'objectif de tous est de démontrer par diverses connexions et manipulations généalogiques qu'ils peuvent prétendre au statut de Manlama. Et pour ceux qui peuvent plus ou moins solidement démontrer être des Manlama, l'objectif est de prouver, en même temps, que les autres hommes et lignages sont des Mankom, et non que des droits de visiteurs, d'usufruitiers, et non des droits de propriété. Cette distinction est certes importante pour ce qui est de la distribution des terres horticoles, mais devient plus centrale encore avec le potentiel, espéré par certains, des ventes de terres et d'éventuels projets de développement des étrangers. Les Manlama soupçonnent les Mankom de préparer ces ventes et de disposer ainsi des terres dont ils ne sont pas les véritables propriétaires. Il les accuse dans ce contexte de vouloir empoisonner les véritables propriétaires du Manlama. que sont les Kanaks. Devant une situation de conflit et d'accusation mutuelle croissante, les chefs du lignage de Lamarck décident en 2009 de faire appel à une femme d'emblée, connue et redoutée pour sa capacité à trouver les poisons. Comme on pouvait s'y attendre, elle en a trouvé des grandes quantités de tout type. Certains qui permettent à l'empoisonneur de voler dans les airs et de tuer sans se faire repérer, certains qui permettent de tuer à distance, d'autres que la victime doit avaler. Ce qui me semble central dans cette histoire, et ce pourquoi j'estime que le complexe de l'empoisonnement est in fine et efficace, est à l'encontre de la thèse de Rodman que j'ai évoquée, que si cette femme n'est pas toujours capable de trouver le propriétaire du poison, elle sait toujours pourtant identifier quelle était la victime potentielle, la personne à qui le poison était destiné. Arthur, je reviens sur mon cas, était un Tnoam, un Man Lama. Les deux vieux, même s'ils se situaient à la périphérie de l'unité domestique d'Arthur par les intermariages, parce qu'ils sont occupés d'eux et les ont nourris, habitent et s'associent au village de travail, des Mancom. Ils sont donc a priori les descendants des Hao, des étrangers entre guillemets. Le père d'Arthur avait déjà été menacé d'empoisonnement, m'expliquent les membres du lignage de Tnoam. Il y a bien longtemps, avant l'indépendance, je cite, des gens étaient venus le voir pour l'avertir. C'est pour ça, disent-ils, qu'il est parti à Santo, puis à Port Vila. Il convoite ses terres, et pendant son absence, il les lui ont pris. Mais le père, entendez le chef de lignage, est revenu à la map et a demandé à ses fils de revenir eux aussi, dont Arthur, pour reconstruire les plans et pour revendiquer leur héritage. La mère d'Arthur, épouse du chef de lignage, racontait comment les bols et les verres se brisaient à chaque fois que le chef voulait boire quelque chose qui lui avait été offert. Tous lui en voulaient, tous voulaient l'empoisonner. Mais il avait été protégé par une magie d'un homme de l'île Lépi, un étranger donc, tout comme la femme d'Andrine ou encore le père Sako. La crainte de l'empoisonnement oblige les Tnoam et d'autres lignages à adopter des codes comportementaux de survie, concentrer ça avec m'impliquer. Il faut veiller à ce que les enfants rentrent directement ou à moins qu'à l'école. Il ne faut jamais accepter de la nourriture préparée par d'autres personnes. Il ne faut jamais boire le cava deux sorts de suite au même endroit. Il ne faut jamais emprunter le même chemin, etc. etc. Et, on m'explique, expliquant plutôt l'obsession par rapport aux voisins, on raconte aussi, je cite, que la religion et la coutume, c'est la même chose. La religion dit que tu vas au paradis, la coutume dit que l'esprit reste éternel. La religion dit qu'il y a un créateur, la coutume aussi, avec Rambat, le grand esprit. La seule différence, c'est que la religion chrétienne, s'entend, n'a gardé que le bien. La coutume, elle a le bien et le mal. Le mal, c'est le poison. Pour te faire respecter dans la coutume, tu as le poison. Parfois, me dit-on, la coutume, c'est mieux. Conclusion. Je ne reviens pas sur les éléments individuels évoqués que j'ai présentés de sorte à construire un argument qui in fine n'en est pas un. Comme le menu vous le dira cet après-midi, la sorcellerie en Mélanésie englobe tant de pratiques et d'événements divers qu'il est difficile de les regrouper dans un seul concept. J'ai donc choisi d'articuler mon exposé autour de la notion locale de poison, en islama, que l'on peut globalement traduire par l'empoisonnement ou empoisonnement, à partir du moment où on entend sous sa sémantique métonymique. Cet empoisonnement, qu'il soit matériel ou immatériel, est un moyen d'action. Mais il est surtout pour celui qui a le privilège d'être empoisonné. Car visiblement, il possède quelque chose qui fabrique une inégalité. Une inégalité relative au travers de l'accumulation concurrentielle du cochon et le système à grade idéal. Celui qui possède beaucoup de terres nourrira davantage de cochons et fera accroître aussi sa richesse en louant ses terres à des sujets fruitiers. Celui qui possède des terres devient un féodal. J'ai ainsi essayé d'inverser le problème, de faire de la victime l'acteur. Le vrai sujet de la sorcellerie de l'empoisonnement à la map ne réside pas, à mon avis, dans le sorcier ou l'empoisonneur, mais dans les mécanismes discursifs et politiques qui permettent de rendre crédible le soupçon d'être la victime d'empoisonnement potentiel. Celui qui n'est jamais menacé d'être empoisonné ne porte que peu d'intérêt aux yeux d'autrui. Il se trouve en bas de l'échelle sociale. Et ceux qui accusent d'autres de tentatives d'empoisonnement sur un des leurs sont toujours les proches. Les membres du lignage, ou des gens extérieurs qui ont accepté la relation féodale et protectrice du chef du lignage. En annonçant à un chef qui court le risque d'être empoisonné, ils disent deux choses en même temps, qu'ils acceptent son autorité et son importance, qu'il s'identifie avec l'idéologie de l'unité domestique de son lignage. L'accusation d'empoisonnement permet ainsi de cristalliser les enjeux sociaux. Il permet de rendre explicite du non-dit qui perturbe la normalité. Loin de la thèse de Fabrice Clément, pour qui l'universalité des phénomènes de sorcellerie réside dans la tout aussi universelle gestion cognitive de la perturbation de la répétition naturelle des choses et de la nécessité cognitive encore d'identifier l'intentionnalité de ces perturbations, je pense au contraire que le noyau du complexe de l'empoisonnement dans mon cas, et peut-être par extension de la sorcellerie, je n'en sais rien, sont les accusations, car elles permettent de rendre explicites les tensions structurantes. J'ai également proposé, même si les matériaux sont encore insuffisants à ce sujet pour ce qui me concerne, que l'empoisonnement a quelques relations avec l'unité domestique, avec la consubstantialité de cette unité, et peut-être même avec le cannibalisme. Les empoisonneurs sont des gens proches du cercle domestique, desquels on s'est occupé, et qui on a nourri, mais qui se laissent convaincre par d'autres de passer à l'acte. Les donneurs d'ordre, tout comme les victimes, sont des gens de pouvoir, des chefs réels potentiels. Arthur est l'un des aînés du lignage du noir, et considérant que ses frères aînés vivent à Santo et à Port-Villa, il avait toutes les chances de devenir chef de lignage à son tour. Déjà, il a accompagné son père aux réunions de conseil des chefs de lama. Il fallait tant qu'il soit en danger d'être empoisonné. Or, ces chefs sont les garants de l'unité domestique. Les cases des frères et de leur famille sont bâties l'une à côté de l'autre. Les enfants, les cochons, les poules circulent librement dans cet espace de famille étendue. La nourriture est partagée, la terre est collective, la coopération intense. L'idéologie du sang et la substance partagée, la consubstantialité entre les membres du lignage est explicite. Et pourtant, ces lignages ont des contours flous, une périphérie d'affins, d'alliés et de confidents qui nécessitent du travail social et émotionnel permanent. Dans le contexte de l'empoisonnement, ce sont eux les acteurs. Ce sont eux qu'il faut convaincre d'empoisonner, mais c'est aussi chez eux que réside le danger d'être empoisonné à son tour. Ils ont été nourris, ils partagent la substance, ils sont consubstantiels jusqu'à un certain degré, mais ils ne se situent pas dans l'idéologie lignagère et ne peuvent naturellement consolider l'unité domestique, car ils sont également membres de leur propre lignage. Empoisonner les autres chefs et manger leur descendance, comme le faisait le nama du Bangladesh, participe finalement au même complexe, celui d'intégrer, d'ingurgiter les potentiels des autres, celui de rendre les contours de l'unité domestique moins flous. Et c'est là que je retrouve l'Australie, car si ce n'est l'empoisonnement ou la sorcellerie qui domine, la question de la définition du centre et de la périphérie et de la dialectique qui les articule l'un avec l'autre, ainsi que l'ambiguïté des statuts de certains acteurs centraux dans cette dialectique, y sont néanmoins des préoccupations sociales et culturelles structurantes et constantes.
Merci. Merci beaucoup, Laurent. Donc, c'est extrêmement passionnant et très bien montré cette relation entre finalement le pouvoir, hein, le pouvoir à la fois politique et économique, foncier, dans un contexte qui est extrêmement particulier, Vanuatu, principe paradis fiscaux de la planète. Et moi, ce qui me frappe là, immédiatement, comme ça, c'est cet aspect donc, de compétition de lignage autour de la tête, de la terre, et la dimension collective du système. Là, tous les systèmes, finalement, de sorcellerie ou de possession sont toujours des systèmes collectifs. Mais là, alors, autant du côté de l'Europe, on met l'accent sur des problématiques individuelles, les rapports inter-individuels, autant là, on voit apparaître un réseau, tout un réseau collectif, et il me semble qu'il y a une relation directe entre l'empoisonnement et la guerre. Il semblerait que là, dans ces sociétés qui étaient des sociétés de guerriers, et qui, par la force des choses de la colonisation, ont dû réfréner leurs guerriers, encore que je suppose que de temps en temps, il doit y avoir quelques escarmouches qui ne doivent pas être piquées des vers, mais bon, du coup, c'est l'empoisonnement, c'est le réseau d'empoisonnement qui remplace la guerre. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il doit y avoir peut-être des continuités, alors c'est la question que je pose aux spécialistes, des continuités entre les rites de guerre et les anciens rites de guerre et les nouveaux rites d'empoisonnement et par rapport justement à la relation à la terre et au territoire. Et puis alors la question aussi que je voulais poser, c'est quid des planqueurs de capitaux là? Est-ce qu'ils entrent dans ce jeu-là? Enfin, est-ce qu'ils sont eux-mêmes des gens prestigieux et qui sont menacés d'empoisonnement, ou est-ce qu'ils sont complètement étrangers, ou est-ce que simplement on profite d'eux, ou comment est-ce qu'on les mange, etc.
Oh, c'est fini.
Oui, je pense que la... c'est des bonnes questions et je n'ai pas forcément les réponses. D'abord, les rituels de guerre ont cessé dans les années 30-40. On n'a pas si récents qui soient suffisamment réduits pour savoir exactement comment ça se passait. À mon avis, néanmoins, le discours sur l'empoisonnement est clairement un discours de guerre. Et clairement, un discours sur le conflit et la fabrication de hiérarchies internes, non pas au sein des lignages, mais entre lignages. Toujours avec cette préoccupation de la recherche de l'authenticité. Qui est le plus authentique sur le lieu? Qui est finalement le propriétaire et pas seulement l'usufruitier? Et le discours sur l'empoisonnement sert à ce discours du collectif. Pour diviser du collectif, mais aussi, finalement, pour le remettre ensemble, pour le regrouper. C'est-à-dire qu'il y a une double dynamique là-dedans, une qui scinde, qui fabrique des hiérarchies entre les locaux, une hiérarchie entre les locaux, mais d'un autre côté, un discours qui finalement réunit l'ensemble des lignages de la presqu'île. Donc, à mon avis, le discours sur l'empoisonnement fait clairement. Alors, je pense pas qu'il fait suite, parce que je pense qu'il devait être simultané, hein, vu que la guerre ne se faisait jamais sans poison.
Oui.
Donc on est un peu dans le même domaine, comme le cannibalisme est associé à la guerre également. Donc, on est dans une même logique. Une continuité de logique sur la fabrication de différences et d'identité politique au sein d'un groupe. Deuxième question, c'était l'étranger. Non, l'étranger ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Non, aucune. C'est dramatique à quel point ils ne savent pas dans quel piège à long terme ils mettent leur pied. Ce qui se passe souvent, surtout avec les institutions australiennes, c'est que vous avez des Australiens qui sont au Vanuatu depuis des décennies, qui connaissent bien la situation, qui achètent au nom d'une entreprise multinationale, et donc ils négocient localement, ils connaissent bien les enjeux, mais ces interlocuteurs, dès que la vente est faite, disparaissent. Et donc en fait, la personne qui est au courant des contextes locaux, qui leur a promis une or, tout ce qu'on veut, en plus de l'argent, souvent lors de ces transactions financières, en premier construction d'une école, une affaire privée, etc. Ce négociateur, ce médiateur disparaissant, les nouveaux qui arrivent et qui acquièrent ensuite des maisons individuelles n'ont aucune idée de l'historique et n'ont aucune idée dans quelle situation ils se
mettent. Oui, mais je voulais dire, les indigènes eux-mêmes,
oui.
est-ce qu'ils intègrent ces nouveaux envahisseurs en quelque sorte dans les réseaux de l'empoisonnement?
Non,
pas du tout.
Non.
C'est vraiment, ça reste. Oui.
Je pense que la relation avec le blanc est un peu particulière, mais c'est une des conséquences du condominium, ça mériterait d'être développé davantage. Il n'y a pas exactement la même relation, c'est pas une relation de colonisateur, tel qu'on peut la dire, mais ça mérite une.
En fait, moi, j'ai juste une critique parce que si on est ici pour partager des savoirs, moi, j'ai vraiment eu du mal, des grandes difficultés à vous suivre parce que vous avez lu tout le temps votre intervention. Alors moi, bon, j'espère à travers les questions qu'on va rattraper les choses qu'un peu j'ai perdues. J'ai enregistré aussi, par chance. Mais voilà, je voulais savoir pourquoi vous n'avez jamais exposé sans lire, en fait. Est-ce que vous pourriez le faire chaque fois? Ça rendrait, je pense, un peu plus au fruit, sans dire qu'on s'en pensait, le partage du savoir, tout simplement. C'est plus simple aussi, d'avoir le temps aussi de pouvoir écrire comme des notes.
Oui, parce que. Effectivement, c'est une bonne question. En plus, je n'ai pas l'habitude de lire le texte, mais je l'ai annoncé au début. C'est que c'est un sujet nouveau pour moi, c'est un terrain nouveau pour moi, plus là. Et il fallait absolument que j'aille à ma conclusion pour coup pas avant, parce que sinon ça ne tenait pas. Donc j'ai décidé de lire mon texte. Effectivement, je sais que c'est en mieux. Vous l'avez enregistré. Ouvrez le texte, je vous le donne.
Question
Merci vraiment, parce que c'était justement une démonstration qui a été du corps et aussi qui porte très loin, notamment sur l'aspect sociologique, en fait, la construction et la déconstruction sociologique. Mais pour en revenir à ton titre, en fait, quand l'empoisonnement a fait un accord avec la sorcellerie, bon, ce qui qui m'a choquée, entre autres choses, c'est la radicalité, en fait, du résultat. Quoi. C'est la mort, c'est pas un empoisonnement où on essaye de lui donner maladie, petit à petit, il va dépérir, c'est le signe qu'on lui veut du mal, etc. C'est carrément la mort. Quoi. En revanche, tu as cité un phénomène où il y a des procédés quand même magiques pour contrer. Et là, on est dans l'ordre du symbolique. Le bol se brise, le couteau se fend, etc. etc. Et je crois, si j'ai bien suivi, parce que c'était rapide, le support est quand même un élément naturel, je crois qu'il y a une plante.
Il y a différents bois, enfin, je vais répondre après.
Voilà. Donc, ce que je voulais te demander, par rapport à la mort, justement, parce que si ma question porte plutôt sur l'ordre symbolique, le registre symbolique, et non plus uniquement social, sociologique, social. Mais si on compare avec les causes de la mort que tu as données en milieu australien de l'Ouest, qui étaient, tu disais, toujours dues à provoquées par les humains, finalement, même s'ils faisaient mal au rituel, on n'arrive jamais au terme de sa vie, il y a toujours une intervention provoquée par le savoir, le non-savoir humain mal fait, etc. Donc, alors là, dans ce contexte, si tu le mets en rapport à comment on peut contrer la mort, dans ce contexte aussi, finalement, on ne meurt jamais vraiment de mort naturelle, puisque la mort sert à... Enfin, dire, la provocation de la mort sert à construire le groupe social, etc. Donc, rapporter quand même à comment contrer cette provocation de la mort, il y a quand même du symbolique qui s'y met, c'est comment, justement, rapporter au physique, au biologique, la mort naturelle, ça se pratique.
Pas facile une question. Oui, le titre, oui, je le connais provocateur, dans le sens où si on adopte tout d'un coup une autre perspective des mêmes phénomènes, c'est-à-dire la perspective de transaction foncière, etc., finalement, ça devient, le plan empoisonnement à la sorcellerie devient autre chose que si on avait pris une autre perspective. C'était ce que j'ai dit. Le poison, donc la base de fabrication du poison sont deux natures, trois natures aujourd'hui. La première est plante toxique, effectivement. La seconde qu'on utilise sont les eaux de poisson de serpent de mer. Et aujourd'hui, au temps moderne, les jeunes utilisent l'eau acide des batteries. Donc on c'est radical comme transformation. Après, moi je l'ai.
On peut le faire alors.
Ah, on peut le faire aussi, on peut y aller. Non, mais ce qu'il faut apporter, je pense que là, c'est là où c'est important. C'est là où je rejoins une question qui est celle de rapport entre symbolique et l'acte, finalement, symbolique et biologique. Je pense que, dans cette expérience relativement brève qui est la ménomanie de maintenant, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que personne ne vous montrera jamais le poison. Tout le monde dit que tout le monde a du poison, mais personne ne sait vous montrer. Je n'ai jamais vu, j'ai insisté, pourtant j'ai jamais vu quelqu'un fabriquer du poison. La seule chose que j'ai fabriqué, c'est de l'antipoison. Contre un poison totalement imaginaire. Donc moi je crois que là-dedans, en réalité, il y a très peu d'empoisonnement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a tout le discours symbolique et politique autour de l'empoisonnement comme étant un vecteur généralisé de l'organisation sociale et de la crainte mutuelle. Donc, je crois que si on prend le point de vue local, il n'y a pas à distinguer entre le biologique et le symbolique dans ce contexte-là. Et personne ne s'intéresse d'ailleurs de voir le vrai poisson, à part Sacco, c'est le seul exemple. Et il a besoin de ce passage-là, Arthur a besoin de ce passage-là, donc de voir vraiment la chose, pour renverser la situation. Parce qu'il est, tout d'un coup, c'est lui qui est accusé d'avoir empoisonné, au lieu d'être ce qu'il aurait voulu être, la victime potentielle.
Question.
Attends,
je passe le micro.
Il faut lancer ce que tu viens de dire. J'aimerais ça. En fait, donc, c'est vraiment le plongeon de ce que tu viens de dire. Comment est-ce que les gens arrivent à. Sur quoi quels sont les leviers qui leur permettent de prouver qu'ils sont bel et bien l'objet d'actes de sorcellerie? Parce que finalement, l'enjeu, il est là. Hein. C'est ce que tu expliquais en conclusion. Dire qu'on est victime d'actes de sorcellerie, c'est d'une certaine manière se donner aussi l'importance de la société. Mais comme tu le disais, tout ça, finalement, que ce soit fun ou pas, peu importe, Ce qui compte, c'est de pouvoir le dire, et surtout, j'imagine, de prouver à un moment donné, il faut que les gens vous parlent, enfin, vous croient quand tu dis, comment on fait pour prouver qu'on a été...
En fait, j'ai un peu dit, mais trop rapidement, parce que j'ai lu, j'en suis encore. Ce sont toujours ces personnages ambigus qui se trouvent à la limite de la périphérie du lignage, voilà, qui sont à la limite comme ça, c'est eux qui vont reconnaître qu'il y a eu un signe bizarre. Alors, les signes, c'est le cri qui a chanté trop tôt devant ta maison le soir, c'est des trucs. Et c'est eux qui vont vers le chef et dire « Attends, je crois qu'on est en train de t'empoisonner, fais attention. » Et en fait, c'est leur manière d'exprimer une adhésion, également une adhésion au groupe lignagé dont il est, et lui donner l'importance qu'ils aimeraient qu'il ait. Donc les signes, ce n'est pas lui qui le reconnaît. C'est rarement quelqu'un qui dit je crois qu'on est en train de m'empoisonner. Ça serait trop validé là-dedans. C'est toujours des gens qui tournent autour du hameau, qui tournent autour du lignage, qui sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de propriété foncière, qui sont des usufruitiers, qui sont un peu ambigus, un peu dans l'ambiguïté, dans la périphérie, qui finalement donnent de l'importance au centre et sont absorbés par ce centre comme des complices finalement.
J'ai plusieurs questions, simplement parce que moi je travaille chez les développeurs et on s'empoisonne beaucoup. Mais en même temps, j'ai créé une assurance en arrière. Ce que je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien saisi dans votre intervention, c'est en quoi l'empoisonnement est-il de la sorcellerie. Parce que chez les développeurs, on s'empoisonne et ce n'est pas du tout de la sorcellerie. Il y a un système sorcellaire à côté qui est bien ce qu'on appelle la sorcellerie dévorante. Il y a d'autres symptômes, d'autres mécanismes, etc. Et là, quand on s'empoisonne chez là, pour des raisons très similaires où vous travaillez, dans des raisons de hiérarchie, surtout de pouvoir, de savoir par rapport à des puissances surhumaines, etc. Là, on sait que c'est parce qu'il y a une faute qui est commise contre la loi. Cette loi qui n'est pas écrite et que le Dieu-là ne cherche pas complètement. Et il y a des mécanismes après qui permettent de retrouver, l'empoisonneur, mais de rétablir, si vous voulez, cet équilibre qui a été rompu par l'empoisonnement grâce à ce qu'on appelle l'enterrement par interrogation ou du mort, où on découvre la chose. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celui qui cherche à être empoisonné, si vous avez compris chez vous, c'est un privilège d'être empoisonné.
Ouais.
Oui, enfin.
Est-ce qu'on a assez
oui. Dans la société lignagère africaine, évidemment, dès que vous atteignez un rang d'initiation, soit pour une puissance surhumaine, soit pour une royauté, etc., vous êtes la cible de soit de la sorcellerie dévorante, soit de l'empoisonnement. Et dans votre cas, est-ce que quand on est empoisonné, parce que j'espère qu'il y en a qui sont véritablement empoisonnés, parce que vous dites que ça n'existe pas.
Non, je ne peux pas le prouver.
Atteignons un prestige particulier dans le bloc là, par exemple, deviendront ancêtres, ou je ne sais pas, enfin, quelque chose, vous voyez, de prestige qui, en fait, permet d'être employé, de réutiliser.
Je commencerai par la seconde question. Effectivement, ceux qui sont identifiés comme étant morts par empoisonnement, qu'ils soient d'ailleurs. Matériel ou immatériel, parce que ça rejoint un peu la première question, il n'y a pas seulement l'empoisonnement par les substances, on peut très bien empoisonner à distance, on peut l'utilisation d'excréments, etc. Donc il y a toute une, dans le discours, une quantité de pratiques qui permettent de dépasser le simple acte de mettre un poison dans un verre. Sauf que dans la logique locale, il n'y a pas une différence de nature entre ces différents types d'empoisonnement. Donc, a priori, les gens qui sont identifiés comme ayant été empoisonnés, donc sans s'en mort, sont a priori des gens déjà importants, qui sont déjà prêts des ancêtres parce qu'ils ont déjà normalement passé des grades, ils sont déjà en voie de se rapprocher de Rambat, le l'esprit ultime, Et donc, ça, effectivement, il est difficilement, je n'ai pas entendu de récit d'un chef qui serait mort non empoisonné. Ça serait le dégrader.
C'est un acte guerrier,
mais c'est aussi c'est une justification de son, c'est une légitimation de son pouvoir politique, mais c'est aussi dire que la seule manière de l'atteindre, c'est par des pouvoirs qui ne sont pas simplement matériels par une arme, mais qui impliquent un savoir-faire, qui impliquent de la magie quelque part, qui impliquent un savoir-faire qui n'est pas humain, que tout le monde n'a pas comme ça.
Non, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu un lien entre la virilité au sens sexuel. Non. Ça me... Non. Ça veut pas dire que ça existe pas. Hein. Mais moi, je l'ai pas entendu dans les récits. C'est-à-dire dans le sens où celui qui serait la victime de ses actes parce qu'il serait trop viril ou quelque chose comme ça. C'est
ça. Non, au sens où la sorcellerie, l'empoisonnement atteindrait, c'est une manière d'atteindre la virilité, enfin, je veux dire, la force.
Comme conséquence de l'acte. Si, mais pas directement. C'est-à-dire qu'il y a parfois il y a eu des cas de chefs empoisonnés, dont un que j'ai rencontré, qui avait, je ne sais pas exactement quoi comme maladie en fait, qui avait le ventre gonflé. Et clairement, on pensait que lui-même soulignait qu'il avait été empoisonné. Et son argument principal était de dire qu'avec ce ventre, sa virilité était atteinte. Donc c'est indirect.
Là, il était féminisé.
Il était féminisé par ce poison qui grossissait en lui, qui le faisait presque exploser. Je ne sais plus, c'est une maladie particulière en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle en termes médicaux. Tu connais peut-être.
Le paludisme ?
Non, c'était pas le paludisme, je pense pas. Hein. Ah, peut-être. Hein. En tout cas, il était tellement gros que... Alors, c'est le seul cas où il se plaignait effectivement qu'il n'avait pas, et pas l'acte sexuel, mais qu'il n'avait pas encore suffisamment de fils, et ça posait un problème.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, oui, Valérie ? Merci.
Le coupable, comment ? Est-ce qu'il y a des processus systématiques ? Comme on est dans une véritable série policière, là, on peut imaginer une enquête spéciale. Et si on le trouve, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, comme je l'ai dit, la recherche du coupable est souvent pas très intensive. On se concentre vraiment sur la victime, finalement. Néanmoins, on a essayé avec le cas de la femme d'Andrine, qui avait une grande excitation en 2009 quand ils l'ont fait venir et qu'il identifiait, il trouvait partout des poisons, mais même elle identifiait les victimes et pas du tout les coupables. Donc, votre question, c'était comment on identifie l'acteur. En fait, dans les cas que j'ai, qu'on m'a cité à la marque, pas la même chose avec toi. Dans les cas à la map, les victimes ou les acteurs, qui sont pour moi les victimes, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai une confusion. Alors, les empoisonneurs, en gros, sont des victimes potentielles. C'est-à-dire que quand on a un accès à un certain degré, on est aussi potentiellement un acteur d'empoisonnement. Pas directement, mais on arrive à persuader quelqu'un de la périphérie de l'autre de passer à l'acte, et par ce faire, on l'a sorti chez soi aussi. Hein. Donc c'est un peu un jeu entre des positions de pouvoir. Après, il est bien évident que je ne couvre pas l'ensemble
des pratiques d'empoisonnement à la marque, de sorcellerie, tout ça. C'est un aspect très particulier qui, je pense, mérite vraiment d'être souligné. La relation assez étroite entre la hiérarchie politique et la capacité à être victime.